responsabilité.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse Gueule.
Bonsoir, kia ora, good evening. Dans le chef-d'œuvre du genre cinématographique 4 murs, un lit, qu'est la maman et la putain, l'ami d'Alexandre écoute Zara Leander.
This program maker is not available now, so we pause for a musical break.
C'est la chanteuse, dit-il. Oh, un petit problème technique. Alors, que se passe-t-il dans les coulisses techniques?
Mon téléphone?
Ah, on a un petit problème. Rien ne marche. Blandine vient d'arriver dans les studios, mais non.
C'est vrai qu'on t'entend.
Voilà, je pense qu'on est de retour. Donc, je disais que dans le chef-d'œuvre du genre cinématographique. Quatre murs, un lit, qu'est la maman et la putain. L'ami d'Alexandre écoute Zara Leander. C'est la chanteuse, dit-il, que les Allemands ont essayé de lancer pour remplacer Marlene Dietrich après son départ. Et comme toutes les imitatrices, elle est bien meilleure que l'original. Elle ne traîne rien derrière elle. Le faux est-il donc meilleur que le vrai? Le vrai n'est-il qu'un moment du faux, un malentendu, en quelque sorte un accident, presque une histoire d'amour? Blandine, qui est presque seule à cette table, a-t-elle eu raison à son insu d'acheter des places de concert fort chères au demeurant pour voir un cover band de Depeche Mode le mois prochain?
Peut-être ce mois-ci, figure-toi.
Ce mois-ci. Elle a eu raison. Elle a sûrement eu raison, si l'ami d'Alexandre dit vrai, en tout cas, car il faut encourager le faux, le faire persévérer dans son être, comme Louis Jouvet, qui à 12 ans se répétait devant son miroir « Tu joueras faux », avec application, ténacité, dans un effort sans cesse renouvelé, à jouer à côté, toujours au-delà des lignes, jusqu'à ce que cela sonne juste, que naisse un style, un nouvel être. La vérité est qu'Amuse-Gueule a toujours défendu le faux. Amuse-Gueule a aussi toujours défendu la cacophonie spirituelle et les rats du ciel. Amuse-Gueule a aussi toujours défendu Eric Morano, mort aujourd'hui même. Il avait 68 ans. Et en 1987, il chantait ceci. Et j'ai l'impression aussi qu'à l'allure, il a beaucoup influencé John Galliano. Vous vous rappelez de ça? Au Mont Bateau?
Oui, exact.
1987. À tout de suite.
Sur la route qui nous menait loin du monde et des problèmes, j'ai fui. La gazelle aimable, oh gracile de velours, j'ai vendu des bagues. Les mouettes m'écrient leur bonjour,
bonjour,
oh mon bateau. Le bâton. Brava in tutte le tempete, si flanco in aluete, vu le rivage où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages. Les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau. Qu'il y a de plus bas, où est le plus bas des bateaux, nu sous le ciel étoilé. Les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en cœur,
les crevettes,
les criolets,
olé,
olé, au bon bateau. Sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux.
Blandine, qui a toujours eu l'art de m'attirer dans des coins sombres en son que jamais je ne le regrette, m'a invité la semaine dernière à un concert fort remarquable, aussi remarquable que traumatisant, en tout cas pour ma fille de 13 ans, qui en a fait des cauchemars. Elle me disait: oh papa, j'en ai vu des films d'horreur sous mon duvet, cachés sous mon ordinateur, mais jamais, jamais de ma vie j'ai eu peur comme ça. Et elle venait d'assister à un concert, un événement qui s'appelait Tempest, d'Antoine Schmitt et de Franck Vigroux, qui à mon avis était fort remarquable et qui en tout cas était une expérience. Donc merci Blandine.
Bon, très bien, c'est une expérience moi qui m'a rappelé mes jeunes années à Paris dans les endroits alternatifs où on jouait ce genre de musique ou autre genre d'expérience.
Mais tu es toujours jeune.
Oui, ouais. Donc donc pour vous donner un peu vous comprendre pourquoi Loulou a eu le sentiment que elle était dans un film d'horreur. Non, c'est une musique qui est pas forcément facile d'accès, qui est assez intense, mais c'est vrai que c'est une expérience. Non?
Ah, au son comme au visuel.
Au visuel, c'est donc alors malheureusement nous sommes à la radio, donc on va vous faire que du sonore. On va écouter ça un petit peu, d'accord?
Et au visuel c'est assez facile de se le représenter. Imaginez un fond d'écran iTunes qui ferait un très 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 mauvais trip.
Oui, exact. Mais ça pourrait être un bon trip aussi, non?
Oui, mais c'est
disons qu'avec la musique, peut-être que les deux ensemble, effectivement. Alors, ce qu'on va écouter là, c'est Chronostasis, grande finale. Donc, c'est la musique de Franck Vigroux, Antoine Schmitt étant l'artiste visuel. Et donc, Chronostasis, ils nous l'ont passé, ça c'était à Othea Center ensuite. Donc, on va écouter un petit extrait de cette musique. Attention au son, à la technique, ça peut aller très fort.
Ça peut faire mal. Éloignez les enfants.
À mon avis, ça va.
Thank you.
On va laisser filer Franck Vigroux derrière, derrière nos voix pour parler un petit peu des concerts qu'on a vus. La première, c'était donc à la Audio Foundation, celle à laquelle Romain a assisté. Une autre à OTA Center. Donc, on va bientôt écouter une interview où ils nous racontent, nous parlent un peu de leur travail à tous les deux. Ils m'ont aussi parlé, en fait, de leur expérience en Nouvelle-Zélande. Je crois qu'ils ont été un peu surpris par la petitesse de certaines salles, notamment celle de l'Audio Foundation était relativement petite, mais quand ils sont arrivés à Wellington, ils se sont trouvés à jouer par terre en tailleur dans un minuscule lieu. Ce à quoi Franck a dit qui peut le peu, peu le moins, peu le plus, qui peut le moins, peu le plus. Et du coup, oui, donc ça a été une expérience pour eux. Je leur demandais s'ils pouvaient jouer dans n'importe quel lieu. Ils disaient qu'effectivement, ils devaient jouer dans des lieux vraiment de taille et de dimensions différentes. Le challenge qui a été pour eux à OTA Center aussi, c'était de se retrouver en extérieur avec un écran à LED. Donc, en tout cas, pour les animations, c'était plus compliqué. Les pixels étaient un peu verts, etc. Et surtout, ils avaient devant eux un public de kiwis. Qui buvaient et parlaient en même temps, alors que c'est quand même, enfin, t'as vu, à l'Audio Foundation, c'est un truc qui est assez c'est une sorte d'expérience dans laquelle
on se retrouve face à soi-même. Ouais.
Donc, quand on a un groupe de kiwis, mon partenaire est allé râler un peu auprès des groupes qui étaient juste à côté de nous, et puis on avait fini par laisser tomber l'affaire. Donc, pour eux, je crois que ça a été particulier aussi d'avoir un public à moitié attentif, en fait, avec des enfants, des adultes, des jeunes qui buvaient. Enfin, il y avait vraiment. Moi je trouvais que c'était assez intéressant, mais je crois que pour eux c'était un peu troublant. Ils ont l'habitude d'être là pour qu'on les écoute surtout. et donc ce sont des pièces qui sont pas très courtes forcément, hein, puisque nous ce qu'on a entendu à la Audio Foundation, je pense que ça a bien dû durer 40 minutes.
J'ai perdu la notion du temps et de l'espace assez rapidement.
C'est vrai que c'est vraiment une expérience qui est déstabilisante. Et qui est déstabilisante, mais qui est encore une fois intéressante et assez riche. Donc voilà, ils sont passés assez rapidement à Auckland, ils étaient passés à Melbourne avant. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir leur façon de travailler. Donc ils en parlent un peu dans l'interview. Ils ont une partition, donc le déroulement et le déroulement du visuel et de la musique est préparé à l'avance. En revanche, ils le jouent en live quand même, c'est-à-dire que les variations vont être un peu différentes d'un jour à l'autre. Et surtout, je sais pas si tu as remarqué, à un moment donné, ils se sont jetés un coup d'œil, ils savent quand ils arrêtent, quand ils vont commencer à prendre cette pente de descente, en fait, parce qu'en tout cas la musique était devenue très très intense. Et donc voilà, ils ont une façon intéressante de travailler. Ils travaillent depuis très longtemps ensemble, d'ailleurs ça se voit. Ils sont vraiment deux personnes différentes, mais qui se complètent bien, et c'est assez intéressant donc de voir leur travail. Franck travaille souvent avec du visuel et Antoine souvent avec de la musique, du sonore, et ils travaillent avec plusieurs personnes différentes, ils ne sont pas toujours ensemble en fait. Et voilà, donc ce sont deux personnes assez intéressantes. Je vais maintenant vous les faire écouter. Je les ai interviewées quand ils sont passés à Paris en fin de soirée. On était tous un peu fatigués, mais ils pouvaient tenir encore le choc.
Et Franck Vigroux, vous êtes venu en Nouvelle-Zélande, c'est votre tour antipodien. Vous êtes venu pour faire un concert performance, c'est comme ça qu'on appelle ça, Antoine ?
Oui, concert audiovisuel.
D'accord, ok. Et donc, je voulais que vous veniez nous. Donc, on a vu Tempest, qui était à la Audio Foundation, et Chronostasis à OTA Center. Donc, on a eu ça vendredi et mercredi. Et donc, j'avais envie que vous nous parliez un peu de ce que vous faites, votre parcours, et puis également ce que vous avez, la façon que vous avez de travailler ensemble. Est-ce qu'on commence avec toi, Antoine ? Tu peux nous parler un peu comment tu as commencé à créer des. Donc, tu travailles plutôt dans le digital, en fait, c'est ça ? De l'art digital ?
Oui, je travaille dans ce qu'on appelle l'art numérique, sachant que je n'accepte pas forcément cette. Étiquette, moi ce qui m'importe c'est surtout de faire des œuvres visuelles principalement, mais des œuvres en mouvement, voilà. Et il se trouve que j'utilise la programmation, c'est-à-dire la programmation des ordinateurs comme matériau principal pour créer le mouvement, ce qui me met dans la cale dans cette espèce de mouvance d'art numérique, même si voilà, pour moi c'est ce qui est important, c'est surtout ce que je produis plutôt que l'étiquette qui est mise dessus. Voilà.
D'accord. Et donc tu es comment as-tu commencé à créer justement de l'art numérique?
En fait, j'ai un parcours un peu atypique au sens où j'étais programmeur avant d'être artiste. Hein, voilà, donc j'étais programmeur par passion depuis que je suis adolescent. La programmation, pour moi, c'est un matériau extrêmement intéressant parce que c'est un matériau avec lequel on écrit des choses qui ensuite sont de l'action, c'est-à-dire bougent, agissent sur le monde. Voilà, donc ça m'a toujours intéressé en tant que tel. J'ai suivi un parcours plutôt scientifique d'ingénieur, programmeur dans l'industrie, etc. Pendant une dizaine d'années, avant de passer à l'art, ce qui a été un changement de vie assez important pour moi, dans lequel j'ai pas forcément tout de suite travaillé avec la programmation. J'essaie de faire de la photo, de la peinture, ce qui m'a pas forcément convenu. Et à un moment, j'ai rassemblé ces deux passions, quoi, l'art et la programmation, pour faire des œuvres avec des programmes qui fonctionnent et qui agissent ici et maintenant sur le monde.
D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'art numérique, ça se présente comment? Est-ce que ce sont des projections? Comment tu présentes ton travail?
Alors principalement, moi, je fais des œuvres visuelles, même si j'ai fait des œuvres audiovisuelles aussi parfois. Donc c'est des œuvres visuelles, donc ça se présente sous forme de soit de projections, donc des vidéoprojections, donc une image projetée sur une surface qui peut être un écran ou un bâtiment existant par exemple, ce qu'on appelle le mapping aujourd'hui, c'est assez à la mode, ou c'est sous forme d'écrans qui sont présentés comme des peintures, donc c'est vraiment encadré comme une peinture, présenté en galerie, comme un tableau. Sauf que c'est pas une peinture, c'est un écran plat, donc avec des images en mouvement. Voilà. Et ce qui est important dans tous les cas, c'est qu'il y a un ordinateur quelque part pour la projection ou pour l'écran. Donc il y a un ordinateur qui fonctionne et qui fait tourner un programme qui fait bouger les choses.
Alors, est-ce qu'il y a une thématique? Parce que dans ce que on a vu, Chronostasis et Tempeste. Le sentiment que j'ai eu, en tout cas en tant que spectatrice, c'est qu'il y avait de l'organique, il y avait du cosmique, il y avait de l'infiniment petit, peut-être infiniment grand, on en parlera peut-être avec la musique aussi. Il y a quelque chose de profondément humain et en même temps une sorte d'autre dimension. Quelles sont les choses que tu transmets, que tu veux transmettre en termes de, je sais pas, thématique, des choses qui te sont importantes et que tu transmets par le biais de ton art digital?
Ouais, ce qui est intéressant avec à partir du moment où on travaille la programmation, c'est-à-dire où on creuse le mouvement et ses causes, c'est qu'en fait on touche assez rapidement à des sujets métaphysiques, alors qu'ils soient liés à la vie ou aux forces du cosmos, au temps. Et ça permet en fait d'explorer ces domaines-là, ces champs-là, d'une manière pas forcément naturelle. C'est-à-dire on peut tirer le réel autrement, en fait. Et en fait, c'est un peu, en tout cas dans ces deux pièces-là, mais aussi dans ce que je fais comme œuvre plastique, c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire que je prends le réel, ou je prends les idées qu'on se fait du réel, et puis je les tord un petit peu, je les distors, et ça nous permet de porter un regard différent sur notre réel tel qu'on le voit et tel qu'on l'explore de manière scientifique ou technique aujourd'hui.
Est-ce que donc tu as des retours de spectateurs? Qu'est-ce qu'on te dit quand on voit ton travail? Quels sont les retours en général?
Alors, en général, le mot qui revient, c'est fascinant. Donc, ça, c'est le mot qui revient le plus souvent, de manière générale. Ouais. Et dans toutes les pièces, je sais pas pourquoi, c'est un mot qui revient souvent. Voilà, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais je pense que c'est un peu hypnotique, oui, quelque part. Voilà. Et puis pour les pièces donc dont on parle, les deux concerts audiovisuels, on a des retours assez touchants en fait. Souvent, on a eu deux témoignages, un pour Tempeste, ou 2 ans après avoir fait un concert à la Philharmonie à Paris, j'ai croisé par hasard dans un vernissage quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais c'est vous, ce concert de Tempest à la Philharmonie, ça m'a sauvé la vie.
Oh, »
ouais. J'étais en pleine dépression et avec ce concert, je me suis rendu compte qu'on pouvait toujours renaître du rien, en fait. Mmh. Et c'était hyper touchant. Mmh. C'était un prof de philo, en plus. C'était vraiment très touchant. Et pour Chronostasis, un jour, on a eu une spectatrice qui nous a dit... le lendemain, après avoir vu votre spectacle, je n'ai plus peur de la mort.
Oh, et ça,
c'était,
aussi, ouais.
Elle était vraiment sincère. C'était vraiment quelqu'un de très introspectif et qui avait vraiment réfléchi sur, enfin, qui réfléchissait beaucoup aux choses. En fait, et c'était vraiment sincère, ça venait du fond du cœur.
Donc, on en reparlera après de la façon dont vous avez travaillé tous les deux ensemble. Est-ce que tu as l'habitude de travailler en collaboration et seul? Comment ça se passe? Tu as travaillé avec plusieurs personnes et,
Oui, un peu les deux en fait. Soit je travaille tout seul, je fais des pièces plutôt plastiques, du coup en solo. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mon travail personnel, mes recherches personnelles. Et j'ai pas mal de collaborations diverses. Là j'en ai plusieurs avec une artiste performeuse, avec un chorégraphe et une danseuse. Donc c'est une spectacle chorégraphique. La performance c'est plutôt une performance, donc le corps qui est central. J'ai eu d'autres collaborations avec des musiciens aussi, assez peu avec des plasticiens. Voilà, donc c'est toujours intéressant en fait hein, de croiser les univers, de trouver des points communs, de faire vivre ça, que les univers et les passions internes interagissent, ou les langages aussi artistiques interagissent. Donc ça donne toujours des choses nouvelles, ça nous amène ailleurs, c'est pas toujours facile, ça nous amène ailleurs que là où que notre point central, on va dire, mais en même temps voilà, bon, ça enrichit les choses et puis ça nous amène ailleurs, ce qui est toujours intéressant.
Est-ce que entre les premières pièces que tu as faites et celles que tu fais aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une évolution? Est-ce que tu sens un changement dans ta façon de pratiquer ton art, un changement dans ce que tu fais, une évolution? Est-ce qu'il y a des choses que tu notes de façon assez claire?
Ça c'est pas facile comme question en fait. J'ai pas vraiment réfléchi à l'évolution.
Ta façon d'aborder les choses, est-ce que tu travailles différemment? Est-ce que ta façon de travailler ça a changé avec le temps? Est-ce que tu vas plus rapide? Des choses se font plus rapidement que d'autres ou c'est quelque chose qui s'expérimente à chaque fois? C'est une nouvelle œuvre et du coup à chaque fois tu recommences à zéro.
Bon, c'est vrai que on va dire que la techniquement peut-être oui. Enfin, il y a de plus en plus de d'aisance avec le matériau de ma part. C'est-à-dire que j'ai mes marques. J'ai de plus en plus vite de l'idée à la réalisation, on va dire. Par contre, au niveau de la démarche intellectuelle ou artistique. Ouais, ça, je trouve, ça n'a pas vraiment changé. En fait, il y a toujours un peu cette même manière à moi d'avancer lentement et puis de réaliser rapidement. Voilà, c'est toujours été un peu comme ça.
Super. Franck, alors toi, est-ce que toi, tu es musicien, tu as un parcours qui est assez éclectique, tu as touché à pas mal de types de musique différentes, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens?
Comme tu viens de le dire, j'ai commencé moi très jeune avec un parcours super éclectique qui est vraiment passé par toutes les musiques qu'on pouvait jouer avec une guitare électrique, parce que j'ai commencé à faire surtout la musique type blues, rock, etc. Et puis petit à petit, je suis allé vers les formes de musique improvisée qui étaient déjà un peu inhérentes à toutes ces musiques-là. Je ne précité et aller aussi vers la recherche sonore, donc lâcher un peu ces instruments classiques pour aller vers d'autres matériaux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à composer des pièces électroacoustiques, etc., à travailler avec donc d'autres musiciens qui étaient sur d'autres territoires que ceux des musiques actuelles ou jazz, etc. Et aujourd'hui, la musique que je fais, elle est beaucoup avec des matériaux dits électroniques, hein, c'est des sons générés de manière électronique, mais aussi avec des sons acoustiques qui sont échantillonnés, par exemple. Mais c'est pas du tout un dogme ou une doctrine ou quoi que ce soit. C'est ça peut changer pour moi. Il n'y a pas une route toute tracée, donc je sais pas, peut-être dans quelques temps je vais me remettre à jouer de la guitare, je sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, je travaille sur tous ces matériaux-là. Donc, ce qu'on appelle musique électronique, ça n'a pas beaucoup de sens, et les sons sont produits de manière électronique. Mais ce que je fabrique là, c'est plutôt des choses qui se situent entre les dites aussi musiques expérimentales, contemporaines, et peut-être plus aussi dans des variations de musique industrielle, minimale, etc. Voilà, pour un peu situer. On arrive à suivre.
Qu'est-ce qui t'a amené vers ce genre de musique? Parce que c'est quand même une musique très très différente de la musique acoustique, par exemple, en termes de composition.
Alors, encore une fois, non, je pense que c'est pas différent, c'est juste c'est les matériaux qui sont différents. Après, pour moi, la composition que je fais là, dans ces pièces-là, par exemple, c'est la même que celle des troubadours il y a 1000 ans. C'est-à-dire qu'on prend deux sons, on les associe, on les superpose, on les juxtapose, avec deux notes, on fait de la musique, c'est tout. Mmh. Deux notes ou deux bruits. Voilà. Pour moi aussi, il n'y a pas de distinction entre ce qu'on appelle le bruit ou les hauteurs, etc. Donc il n'y a pas aussi. Je ne suis pas non plus dans la règle de l'harmonie, du rythme. Qu'on retrouve plutôt dans la musique dite classique, etc. Mmh.
Donc, s'il n'y a pas de distinction, qu'est-ce qui te mène plutôt vers ce type de musique en ce moment, hein, même, comme tu disais, qui veulent plutôt qu'une autre?
C'est les goûts qui évoluent, c'est les rencontres, c'est les coups de cœur, c'est le désir, c'est tout ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de rencontres artistiques dans ma vie, jusqu'à encore courte. Et voilà où j'en suis.
D'accord.
Pour la musique. Mmh. En tout cas.
Est-ce que tu as quelque chose que tu veux transmettre par la musique? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire clairement, ou est-ce que c'est juste quelque chose que tu crées au jour le jour et on prend ce qu'on veut dedans?
On veut tous dire quelque chose, mais alors, moi je suis incapable de l'expliquer. On a tous. J'espère qu'on a tous quelque chose à dire. Donc on essaie tous de faire avancer un petit peu aussi le curseur. Quand on cherche, quand on crée, on espère que la petite pierre va être utile à toute une pensée artistique.
Je vous voyais jouer tous les deux là, au cours de ces deux concerts, et vous êtes complètement dedans, c'est évident. Mais je trouvais ça assez fascinant, en fait, de voir je me demandais dans quel état d'esprit on est quand on est justement en train de créer ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du principe, comment fonctionne justement ces deux pièces que vous avez jouées à Auckland? Est-ce que donc il y a des choses que j'imagine qui sont préparées? Qu'est-ce qui est de l'ordre du live, du jouer sur place? Qu'est-ce qui est fait à l'avance? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus ou la façon dont c'est joué?
Alors, la manière dont c'est joué, c'est assez très simple. C'est on a des outils. Pilote de manière manuelle, donc ça déjà c'est juste à dire que c'est joué comme des instruments, que ce soit pour l'image ou pour la musique dite générée électronique, comme je viens de le dire. J'ai tout un système donc moi d'appareils que je pilote et qui font qu'il y a une gestuelle instrumentale comme pour la vidéo, Antoine pourra expliquer. Donc il y a un vrai jeu, donc au sens premier du terme. Du coup, ça me permet aussi d'avoir une relation vraiment plus dynamique et ludique, pure, avec cette pièce, qui est constituée d'une structure très précise, avec des matériaux très précis, que ce soit visuel, etc., mais qui nous permet quand même une certaine souplesse, et où la connexion entre l'image et la musique est purement humaine. Il n'y a pas une technologie entre nous deux qui viendrait piloter tout ça.
Et voilà, merci Blandine pour cette interview. On reste dans le futurisme en écoutant Brigitte Bardot qui chante Contact.
Un météorite m'a percé le cœur. Sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. Perdu par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Contact. Contact. Comprenez-moi, il me faut à tout prix. Rejoignez mon amour dans la galaxie. Contact. 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 Contact.
Vol intersidéral, vol de pigeon, même combat. Donc,
ça c'est de la transition.
Ça c'est de la transition. Un article paru dans la Guardian, dans le Monde aussi, et je crois que tous les autres médias planétaires vont suivre. Il s'agit de pigeons, bien sûr. Tout le monde, surtout ceux qui ont vécu en ville, se sont posé la question de savoir pourquoi tant de pigeons. Claudiquet se promenait avec des moignons en guise de pattes. La légende urbaine voudrait que ces difformités soient liées à des maladies qui rongent leurs doigts. Eh bien non. Une équipe de chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle de Paris de l'Université Lyon 1 ont étudié une centaine de pigeons sur 46 sites à Paris et sont arrivés à ces conclusions.
Ils ont rien de plus intéressant à faire, les gens du muséum.
Non, mais ça, tu t'es jamais posé la question?
Ben non, pas du tout, non. Je me suis dit, ils sont pris dans des barbelés ou des...
Ah bah c'est encore plus farfelu que ma petite l'explication que je m'étais donnée à moi-même, qui était une explication électrique, fil électrique, ce qui est complètement, tout juste un petit peu moins idiot que tes barbelés. Les barbelés à Paris.
Oui, les trucs, les pics qu'ils mettent là pour empêcher les pigeons de alors imagine qu'ils soient un peu cons et hop.
Le pigeon
n'est pas forcément intelligent.
Il a une technique de vol assez remarquable pour qui les a observés, pour qui a fréquenté les parcs.
On sent que tu as passé beaucoup de temps dans les parcs, toi. Oui.
Moi, j'aime bien comment ils marchent en agitant la tête. Il paraît que c'est pour améliorer leur vue 3D.
C'est vrai?
En bougeant, comme ça, comme différents plans bougent à différentes vitesses. C'est comme ça qu'ils perçoivent le temps en 3D.
Ah, excellent.
Et toi, Stéphane, avais-tu une explication intime au moyen des pigeons?
Pas du tout, mais je...
Tu les avais observés, tout de même.
Ouais,
tout à fait. Et tu t'es jamais posé la question, t'es pas curieux.
C'était des blessures, des blessures.
C'était une épidémie. C'est 3 sur 4. Et surtout en milieu urbain. Et en fait, c'est un baromètre, c'est un signal de pollution. Plus le lieu est pollué, plus les pigeons sont
à moindre. Donc c'est des maladies, c'est à cause des maladies, alors.
Non, alors, donc voici, donc leur conclusion est que plus le quartier est pollué, pollution de l'air, bruit, et plus il est densément peuplé, plus les pigeons sont estropiés. Voilà la première corrélation. Et encore plus frappant, ces oiseaux sont plus fréquemment mutilés dans les quartiers où, figurez-vous, il y a le plus de coiffeurs.
C'est les coiffeurs qui coupent les pattes.
C'est les cheveux dans les pattes.
Qui jettent les cheveux coupés dans les mêmes poubelles où viennent se nourrir les volatiles. Et la raison est mécanique, disent-ils, je cite, « Lorsque les pigeons marchent au sol, des cheveux ou des fils s'enroulent autour de leurs extrémités et finissent par faire un garrot sur les doigts qui se nécrosent et tombent. »
Ouais, parce que c'est vrai, quand tu vois des oiseaux avec les pattes, tu te dis souvent effectivement ils sont pris dans des machins, dans des fils ou des trucs comme ça. Donc,
ah, okay. donc c'est à cause des coiffeurs.
Mais alors la pollution dans tout ça, non, finalement la pollution n'a rien à voir.
Oh, je n'ai pas lu tout l'article.
Tu vas pas nous dire le reste.
Tu t'es arrêté au coiffeur.
Non, mais c'est du Magritte, quoi. C'est surréaliste.
Ouais, c'est pas mal comme. C'est pas mal, mais ça a du sens malgré tout.
Tu me dis, c'est la rencontre très malheureuse du pigeon et du coiffeur.
Et du coiffeur, ouais. Quelle nouvelle! Et c'était dans Le Monde,
sérieusement. Et c'était dans Le Guardian aussi. Et à ce sujet, je voudrais pousser un cri de joie et annoncer à ceux que la vie de notre beau pays, la Nouvelle-Zélande, intéresse, qu'ils peuvent enfin se servir du New Zealand Herald pour allumer des feux de cheminée avant même de l'avoir lu. Parce que, oui, si on tient à avoir des nouvelles de notre beau pays et ne pas être gavé de Kardashian, de famille royale, d'articles à longueur de journal.
C'est dur.
Bon, là, c'est. Pour la défense des riches contre les pauvres, eh bien c'est difficile. Mais heureusement, depuis le 4 novembre, à l'édition internationale du site du Guardian, et non pas le Guardian, enfin, c'est la même chose, mais...
Il faut le prononcer bien, c'est ça?
Oui.
Guardian. C'est quoi l'adresse du site international?
C'est Guardian.
UK ou...
Non, t'as la UK Edition. Et tu vois guardian.com.
Donc
le Guardian International affiche une section sur la Nouvelle-Zélande et on y découvre des articles fouillés sur l'inégalité, la justice sociale, l'environnement, les affaires Maori.
Tu veux dire en fait des articles de fond sur la Nouvelle-Zélande.
Sur la Nouvelle-Zélande. Et notamment un très bel article sur la démographie en Nouvelle-Zélande et sur à quoi alors elle devrait ressembler d'ici 50 ans. C'est très bien.
Génial. Ouais. Ah, ben c'est bon à savoir. Très bien.
Oui, c'est très, très, très bon à savoir. On va vous retrouver dans quelques instants. Le quiz. Moi, j'aime bien mes quiz. Mais d'ici là, on écoute. Bah oui, on va écouter tout le monde, Marie Laforêt, qui nous a quittés cette semaine.
C'est vrai?
Et oui, mon petit.
Il y a combien de personnes qui nous ont quitté cette semaine?
Je sais pas, mais de toute façon.
Il y a deux, là.
Bah oui.
Qui est l'autre? Ah oui, c'était
Eric Morgan.
T'es un peu comme Drucker, toi. Tu suis tous les enterrements
de près. Il fait la chronique écologique. Ouais.
Non, mais Drucker, il y a plus d'enterrements qu'un enterrement. Il y a une photo de Drucker.
Ce souvenir, c'est important.
Je t'aime encore et de plus en plus fort, mais je veux le garder pour moi. Si je t'aime, cela ne te regarde pas et je ne refierai pas, non pas cette fois. Toi qui m'as usé le cœur, toi pour qui j'ai versé tellement de pleurs, tu serais fier sûrement de savoir que maintenant, pour moi, c'est arrêté le temps. Et si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, quand bien même, si je t'aime, si je t'aime, je ne te le dirai plus jamais, puisque je m'en vais. Je saurais bien résister à l'envie de te revoir.
Excusez-nous. Alors, petit problème technique.
Qu'est-ce qui s'est pas fait?
C'est,
il n'a pas laissé tranquille son appareil.
Il a chipoté avec son téléphone.
Non, c'est mon téléphone qui s'est pris les pieds dans lui-même. Bon, on va continuer en musique. On va rebondir avec Jane Birkin, qui la très rebondissante Jane Birkin qui chante Didouda.
Toujours adoré le français, mais toujours adoré.
Allez, on revient et on va passer à notre quiz. Alors, quiz d'orthographe, tout le monde joue autour de cette table.
Moi, je suis nulle en orthographe.
Eh bien, ça veut dire que Stéphane a peut-être une ou deux chances.
Un quiz d'orthographe, un quiz.
Allez,
je suis pas bien.
Alors, écoutez ça. Complétez la formulation. À date butoir. Mais y a-t-il un E ou non à la fin de butoir? Jusqu'à la date butoir.
Et on dit tout de suite au micro ou on réfléchit d'abord?
Non, tu prends un timbre, tu me fais recommander, tu l'envoies trop.
Non,
vous me le dites maintenant, tout de suite.
Moi, je mets pas de.
Et j'en mets un comme ça, il y en a.
Non, il n'y a pas de galanterie là-dedans.
Dis ce que tu penses.
Mais je dis ce que je pense.
Tu penses que t'en mets un?
Tu es perdu, ma fille.
Non, mais je suis nul en orthographe et je l'assume totalement. Moi, j'en mets un.
J'ai vu cette phrase, il n'y a pas de.
Je dis ce que je pense avec le ton de la femme qui dit un mensonge assumé.
Bon, je dis à eux, vous me. Vous
bien, les tu brisez attends, menus, tu les attends amis. Et tu le savais depuis le début.
Voilà. Ah, tu gagnais là.
Voilà, t'as gagné.
Exactement, c'était pas un point, Blandine, rien du tout. Un seul mot est correctement écrit, lequel? Gaufre, avec deux F. Échafaudage. Avec deux F. Inondation, avec deux M. Et bonhomie, que je vais vous appeler B-O-N-H-O-M-I-E.
L'inondation.
Alors, un seul mot est correctement écrit. Lequel? Échafaudage, avec deux F. Inondation, avec deux N. Gaufre, avec deux F. Et bonhomie, B-O-N-H-O-M-I-E.
Moi, je dirais bonhomie.
Ouais, c'est inondation, échafaudage. Moi, je lis inondation.
Bien écrit avec deux N.
Ah non, avec deux N. Ouais, alors, ouais. C'est échafaudage.
Bonhomie,
c'est bonhomie.
Ah, alors
ouais. Complétez la phrase. Je vois des valiers naviguant sur l'eau. Comment écrivez-vous naviguant? Alors, il faut savoir. Y a-t-il un U après le G? Y a-t-il un T? Y a-t-il un S après le T?
Y a un U, mais il n'y a pas de S.
Il
n'y
a pas de S, c'est sûr.
C'est l'impératif
gérondif.
Voilà. Non, mais le truc là, je sais plus comment on appelle ça en belge.
Je dirais ça aussi, un U avec
un U sans S. S.
Ouais, un U sans S. Eh bien, vous n'êtes pas la moitié d'idiots tous les deux.
Ah, ça marche. Okay.
Voilà, vous
allez voir. Mais bon. Hein.
Quelle forme est incorrecte? Il inclut, je vous envoie, je vous transfère, il m'envoie. Je répète. Quelle forme est incorrecte? Il inclut, je vous envoie, je vous transfère, il m'envoie.
Je comprends même pas ce que ça veut dire.
Ouais, moi non plus. Il inclut quoi?
Il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, à moins d'être en dehors de la grammaire, en dehors des règles de société, en dehors de l'humanité.
Parce que je vous envoie.
Je vous transfère, c'est pas terrible. Mais...
Je vous transfère comme...
Ça fait anglais, ouais, ça.
Déjà, ouais, si tu
ça accroche l'oreille.
Ouais. Je vous envoie, c'est une forme...
Je vous envoie un cadeau, ça va.
Bah, si, ça dépend, parce qu'il n'y a rien derrière. Donc, c'est au cas, tu peux mettre ce que tu veux derrière, en fait. C'est une...
Tu sens ça comme une phrase entière. Quoi. Il y a un point à la fin de tout ça. Quoi.
Non,
Et c'est des bouts de phrases.
Je ne sais pas.
Je ne comprends rien à tes questions.
Moi, je dis, je vais vous transférer. Oui.
Et il m'envoie.
Il m'envoie quoi?
Il m'envoie un cadeau. Il m'envoie au diable.
Vous me fatiguez. Complétez la phrase. Ils trouvent qu'ils ont raison de concert avec les administrateurs, il a donc voté oui. Ou de conserve avec les administrateurs, il a donc voté oui.
Pas de concert. Hein.
De concert.
C'est Arte, quoi. De conserve. Ça n'a aucun sens, quoi. Boîte de compteur, monsieur administrateur.
Ouais.
Eh bien, vous avez tous les deux raison.
C'était pas difficile.
La phrase, il est rentré dans la boulangerie pour acheter le pain, est juste ou fausse? Il est rentré dans la boulangerie pour acheter le pain.
Ouais, ça me semble correct, moi.
Oui, il en est sorti puis rentré.
Il est rentré dans la boulangerie pour acheter le pain. Ça me semble correct, hein?
Bien sûr que... Mais non. Le verbe rentrer signifie entrer de nouveau,
c'est ce
revenir.
C'est ce que je viens de
le
dire.
Le verbe entrer, pour sa part, s'emploie pour signifier que l'on pénètre quelque part.
Tu vas bien rentrer une minute.
Non, mais ça dépend du contexte. C'est
en belge, on dit rentrer, quoi.
Non.
Donc dans ton histoire, il est allé à la boulangerie.
Il est sorti.
Donc, il est allé dans la boulangerie pour acheter du pain. Non.
J'ai oublié le pain.
Non.
Il est rentré dedans.
Donc, il est allé dans la boulangerie, parce que c'est l'anniversaire de son neveu,
oui.
De son fils. Il doit acheter un cadeau, un gâteau et le pain. Il achète pour rentrer, il achète le gâteau,
il entre.
Pour... La définition, c'est entrer de nouveau. Hein. Okay. Revenir.
Non, c'est vrai, selon le contexte, il peut rentrer dans la boulangerie. C'est
mais après, on a au verbe transitif, mettre ou remettre à l'intérieur. Par exemple, rentrer les foins, oui. Même si on ne les re-rentre pas. Tu vois.
Et donc, re-rentrer n'existait pas. Donc, rentrer c'est une troisième fois.
Rentrer sa chemise dans son pantalon. Une seule fois.
Et re-rentrer...
Dans le cas d'un verbe transitif, mais dans le verbe intransitif, c'est entrer de nouveau.
Okay.
Donc, il est rentré dans la boulangerie. Ça veut dire que c'est la deuxième fois qu'il rentre. Qu'il entre.
Blandine a toujours un point d'avance.
C'est pas normal, il avait un point d'avance sur moi.
Pardon. Stéphane qui mène la danse. Tu as une chance de te rattraper, Blandine. Quel est l'infinitif du participe passé issu? Quel est l'infinitif du participe passé issu? Issoir, sans E à la fin, Issoir avec un E, Issir avec un E, ou Issir sans E.
Je dirais Issoir sans E.
Alors là, Issoir,
c'est Issir.
Issir, j'ai jamais entendu,
ça. Acheter des bonbons à la boulangerie.
Issir.
Maintenant, vous allez me dire l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, quelle phrase est mal écrite. Il pallie ses difficultés, c'est soi-disant un ami, une émission de service public. Quelle phrase est mal écrite? Il pallie ses difficultés, c'est soi-disant un ami, ou alors une émission de service public.
Une mission, pas une émission.
Moi, je dis le premier.
Pardon, une mission de service public.
Moi, je dis le deuxième.
Okay. Le premier est bien écrit, elle est mal écrite. Attends, mal écrite. Il faut dire laquelle qui est bien ou mal écrite?
Mal écrite, hein.
Mal écrite, la première.
Ah, deuxième. Il aurait fallu que je vous l'épelle.
La première.
Moi, j'ai la deuxième.
Ok. Maintenant, si je vous dis c'est soi-disant un ami et que je l'écris c'est, soit S-O-I-T, tiret.
Ah non, ça, c'est n'importe quoi, même. C'est S-O-I.
Cet homme est remarquable, Blondine.
C'est un scientifique, c'est ça qui est déprimant.
Il est drôle.
C'est la blague qu'il a fait tout à l'heure qui t'a fait rire, c'est ça.
Quelle forme est correcte?
Vous ne l'avez pas entendu. Hein.
En termes de, faut-il mettre un S à la fin de terme?
Un S à la fin de terme.
Quand on écrit en termes de...
Non.
Non, je n'en mettrai pas non plus.
Eh bien, vous avez tous les deux tort. On écrit bien toutefois en termes de, mais la règle vaut qu'il faut écrire.
Quoi, au pluriel?
Au pluriel, oui.
D'accord.
Mes amis, nous allons écouter de la musique. Et on va écouter Les Innocents qui chantent L'autre Finistère. À dans une minute.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Toi, trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait-y attendre la fin des combats, tous les revers au retour, tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir sourds. Il est un espèce, un enfleuve de soupirs, où l'eau mêle nos mystères. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère, longue plage de silence. Bien sûr, on se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. Il est un esprit, un enfleuve de soupirs, où l'eau mêle nos mystères. Et nos belles différences, j'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère, au long de plages de silence. Un jour je m'en vais.
Très bien, très très bien. Qui va voir le festival d'art d'Auckland la semaine prochaine?
C'est pas la semaine prochaine, c'est en mars prochain. Oups, pardon.
Mais donc c'est pas si dramatique, là.
Bah, je dis pas que c'est dramatique, je dis juste que on peut commencer
c'est
à...
C'est dramatique, les moustiques nous piquent.
On peut commencer surtout à acheter des places. Il y a quelques petites beautés, dont Prège Locage, qui est un chorégraphe... qui est en France, il n'est pas d'origine française, mais il est en France, qui est excellent, qui va présenter un spectacle. Il y a Black Grace, qui est un chorégraphe. Oh, le mot m'échappe. Enfin, ils sont néo-zélandais, excellents aussi. Altamira également. Donc, il y a du beau monde, néo-zélandais et international. Il y a du théâtre, il y a de la danse. Et ça vaut vraiment le coup de commencer à réserver les places, à mon avis. Ceci étant, ce qui est bien en Nouvelle-Zélande, c'est que tout ce qui est culturel, ça met toujours. On trouve toujours des places. Mais. Donc, voilà. Ça vaut le coup d'aller faire un tour.
Il y a le ASB aussi.
C'était cool, là.
Et puis il y a le Depeche Mode Experience quand même qu'il faut pas.
Il y a Simple Mind. Il y a Simple Mind.
C'est un cover group aussi. Maintenant non, je me méfie.
C'est parce que les tickets sont en vente pour décembre l'année prochaine quoi. Ouais. Et les tickets sont en vente maintenant.
Ah bah c'est très bien.
Voilà.
Donc oui une petite chose dont je vous parlais. Enfin on y va avec Blandine si vous voulez voir des animateurs d'Amuse-Gueule en vrai, ce serait peut-être l'occasion.
Dis les choses comme elles sont. Les deux plus sexy d'Amuse-Gueule.
Si vous voulez voir Romain en vrai.
Hein, Romain, si vous la voix de Romain, quand même ça vaut le coup. Et moi-même, je suis pas mal. Hein, je suis un peu
jeune.
Je suis vieillissante, mais bon, non, je suis encore.
C'est de ma tête.
Ah, je tiens la route encore quand même. Non.
Ah non, t'es
bon, voilà. T'es... Donc. Venez, vous allez tomber par terre.
Comment on dit ici, tu as high.
C'est où qu'on rencontre les gens d'Amuse-Gueule alors?
Ah oui, par contre, dis-leur où ils peuvent nous rencontrer et avoir la chance
alors,
de
nous
voir.
Donc nous serons au Saint-Lux à la séance de 9h jeudi soir. On ira voir Spirits in the Forest, qui est un film d'Anton Corbijn. Qui a suivi Depeche Mode pendant sa tournée. Non, plutôt qu'il les a filmés lors de leur dernier concert à Berlin il y a 2 ans. Et ce concert est entrecoupé de témoignages de fans à travers le monde, dont une allemande qui a eu un grave accident de voiture qui lui a retiré la mémoire. Elle ne se souvenait de rien par des paroles de Depeche Mode.
C'est assez obsessionnel quand tu écoutes ça. Hein. C'est un peu comme de la bonne pop.
Non, mais c'est Depeche Mode est un groupe de fans pour une raison entre autres. Là, je parle de l'Est européen. C'est que Depeche Mode fut parmi les premiers groupes, les premiers artistes à se produire là-bas. À une époque où on n'y gagnait pas beaucoup d'argent, puisque tout l'argent qu'on y gagnait devait être dépensé sur place. Mais il se trouve que toute une génération a découvert la musique musique contemporaine, enfin la musique pop, par Depeche Mode et toute leur jeunesse, y a été associé à jamais.
On vous en reparlera, on reviendra en parler de tout ça, parce qu'on a... Ouais.
Et si vous voulez me reconnaître dans la salle, eh bien...
T'as les cheveux blonds, longs.
Fais d'écouter, hein, fais d'écouter.
Comment ils peuvent...
Ma voix ressemble... Mes jambes ressemblent à ma voix.
Tes jambes...
Mes jambes ressemblent
non,
à ma voix.
Non, je dirais autre chose, mais je peux pas le dire. Mais il y a autre chose qui ressemble à ta voix, mais bon, ça c'est...
Mon nez.
Non, c'est pas ton nez. Bon, passe à autre chose.
Allez, on écoute de la musique.
Moi, je dis rien, moi. On dit déjà au revoir, parce qu'il y a 2 minutes et demie.
Eh bien, on dit au revoir. Eh bien, merci d'être resté avec nous.
À la semaine prochaine.
Et pour vous remercier de votre assiduité, on va écouter Luis Mariano qui chante Rossignol. Allez, à tout de suite.
Une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, Rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens, j'attire Rossignol. Le Rossignol revient, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits Rossignol.